Extrait numéro 7, chapitre 12. Tsar et Tsarine. Tout à coup, au milieu de ses fêtes et de ses triomphes, le tsar apprend qu'à la suite d'une intrigue de harem construite par Charles XII, deux armées, l'une turque, l'autre tatare, marchent sur Yassi. Ces armées réunies forment 200 000 hommes. Ces 200 000 hommes sont commandés par Mehmet Baltadji, c'est-à-dire par Mehmet, le fendeur de bois. Et en effet, Mehmet a été valet dans le harem. Tout puissant auprès de son maître, mais se souvenant de son origine, il refuse d'abord le commandement de l'armée immense que l'on met entre ses mains, mais le grand seigneur insiste et lui donne un sabre couvert de pierreries. Il accepte alors en disant « Ta hautesse sait que j'ai été habitué à me servir d'une hache à fendre le bois » et non d'un sabre pour commander les armées, je tâcherai de te bien servir. Mais si j'échoue, souviens-toi que je t'ai supplié de ne pas faire de moi un général. » Pierre, tout enorgueilli de Poltava et traitant Turcs et Tatars comme Charles XII traitait les Moscovites, marche contre ces 200 000 barbares avec 30 000 soldats. Il est vrai que ces 30 000 soldats sont l'élite de la Russie, le germe de la civilisation, l'espérance du Nord. Ils traitent avec deux Grecs, l'un Cantemir, hospodar de Moldavie, l'autre Brankovan, hospodar de Valachie. Trahis par tous les deux, ils se trouvent acculés aux poutres, sans vivres, sans munitions, sans autre artillerie que quelques pièces et trois coups de canon à tirer. « Diable, dit-il, me voilà au moins aussi mal ici que mon frère Charles à Poltava. » Puis il se retire dans sa tente, défendant que qui que ce soit vienne l'y troubler, commande pour le lendemain un effort désespéré et dicte pour le Sénat cette instruction « Ne point perdre courage, ne songer qu'au bien et au salut de l'État, n'avoir aucun égard aux ordres, quels qu'ils soient, que l'on pourrait arracher à ma captivité, me remplacer même sur le trône par celui que l'on jugera le plus digne, si le bien public l'exige, abdiquant d'avance et pendant que je suis libre encore, un empire sur lequel je n'ai voulu régner que pour faire son bonheur. » Jusqu'à présent, Pierre a emprunté ses exemples aux rois de l'Europe. Il leur rend en quelques lignes tous les exemples qu'il a reçus d'eux. Une seconde fois, il appelle Cheremetev. Pendant la nuit, on brûlera tous les bagages. Chaque officier supérieur se réservera un seul chariot. Si l'on est vaincu, l'ennemi du moins ne profitera point du butin. À la pointe du jour, on attaquera l'ennemi à la baïonnette. Cheremetev sort, les ordres du tsar seront exécutés. Cheremetev sorti, Pierre est pris de convulsions. Tous les grands hommes, à commencer par César et à finir par Napoléon, sont plus ou moins épileptiques. En rouvrant les yeux, il voit Catherine devant lui. Catherine est son conseil intime, elle l'a suivi sur le prout. Pierre s'étonne de la voir, ferme et calme, quand lui, l'athlète de Dieu, se roule sur son lit, nu et terrassé. Elle vient lui rendre la force évanouie, faire renaître l'espoir perdu. Il ne faut pas combattre, il faut traiter. Traiter n'est pas le mot qu'on rompre. À force d'or et de présents, on achètera le caïmacam et le grand vizir, elle en répond. Elle s'est fait lire, Catherine ne sait ni lire ni écrire, elle s'est fait lire les dépêches du comte Tolstoï, ambassadeur de Pierre à Constantinople. Il se connaît en trahison, lui qui a trahi la princesse Sophie pour le tsar Pierre, et Catherine est sûre que le caïmacam et le grand vizir sont à vendre. Le tout est d'y mettre le prix. Elle connaît l'homme que l'on peut charger de cette négociation. C'est un bas officier habile, de l'intelligence duquel elle répond. À sa voix, le tsar se relève, reprend non seulement le courage, mais la force. On fait venir le messager, qui part à l'instant avec des instructions verbales. Il est autorisé à offrir jusqu'à 4 millions. Le messager parti, le tsar regarde Catherine. Et s'il accepte, lui demande-t-il, où trouverons-nous l'argent nécessaire aux deux coquins? Ils ne se paieront pas de telles promesses. Ici même, répond Catherine, j'ai mes diamants avec moi, et avant le retour du messager, j'aurai jusqu'au dernier copec qui est dans le camp. Va, et que Dieu te conduise, dit le tsar. Sa devise est, on le sait, Deo adjuvante. Catherine monte à l'instant même à cheval et parcourt tout le camp. Elle adresse tout à la fois la parole aux officiers et aux soldats. « Mes amis, leur dit-elle, nous sommes ici dans une telle situation que nous ne pouvons sauver notre liberté qu'en perdant la vie ou en faisant à nos ennemis un pont d'or. En prenant le premier parti, qui est celui de mourir en nous défendant, tout notre or et tous nos bijoux deviennent inutiles. Employons-les donc à séduire nos ennemis. J'y ai déjà sacrifié toutes mes pierreries et tout mon argent, mais cela ne suffira point. Il faut que chacun de vous se cotise. » Puis, s'adressant à chaque officier en particulier, « Voyons, toi, dit-elle, qu'as-tu à me donner? Si nous sortons d'ici, je te le rendrai au centuple, sans compter que je te recommanderai au tsar, notre père. » Et tout le monde, depuis le général jusqu'au simple soldat, donna ce qu'il avait. Et l'on eut bientôt des monceaux d'or. Le messager revint, le grand vizir demandait qu'on lui envoyât un commissaire pour traiter de la paix. Quelques-uns disent que ce fut le grand chancelier Chafirov qui se rendit au camp du grand vizir. D'autres assurent que ce fut Catherine, qui, ne voulant pas confier la négociation à un étranger, s'y rendit elle-même. Ils expliquent ainsi la réussite de la négociation. Catherine était fort belle, et l'on sait combien la beauté est puissante sur ces sectateurs de Mahomet, qui n'ont trouvé un paradis digne d'eux qu'en le peuplant de houris toujours vierges et toujours belles. La tsarine était loin d'être une hourie sous tous les rapports, mais sous celui de la beauté, elle l'était plutôt deux fois qu'une. La première réponse du vizir fut « Que le tsar abjure et devienne notre frère, et nous n'avons rien à refuser. » « J'abandonnerai plutôt aux Turcs, dit Pierre, tout le terrain qui s'étend jusqu'à Kourche. J'aurai du moins la chance de leur reprendre un jour. Mais la perte de ma foi serait irréparable. Comment le grand vizir croirait-il à ma promesse s'il me voyait manquer à la promesse que j'ai faite à Dieu ?» La seconde exigence du grand vizir fut que le tsar et son armée se rendraient à discrétion. « Dans un quart d'heure, répondit le vieux chancelier, mon maître vous attaquera, et nous nous ferons tous tuer depuis le premier jusqu'au dernier, plutôt que d'accepter des conditions infâmes. » Je serais tenté de croire que ce fut alors que Chafirov abandonna la négociation et que Catherine la reprit, tant il y a que la même nuit, le traité fut signé. Le tsar rendait Azov, brûlait les galères qu'il avait dans le port, démolissait les citadelles bâties sur les palus méotides, abandonnait toute l'artillerie et toutes les munitions de ses forteresses au grand seigneur, évacuait la Pologne et payait de nouveau aux Tatars un subside de 40 000 sequins, aboli par ses victoires précédentes et qu'un traité aussi désastreux qu'une défaite faisait revivre. Moyennant quoi, le tsar eut la liberté de se retirer avec son armée, son artillerie, ses drapeaux et ses bagages. Les Turcs s'engageaient, en outre, à lui fournir des vivres. Le traité allait être signé lorsque Charles XII arriva tout à coup au camp du grand vizir. Il avait couru 50 lieues à cheval, depuis Bender jusqu'à Yassi. Il fallait faire 3 lieues de plus pour aller passer le Prout en face du camp des Tatars. Charles XII n'en avait pas eu la patience. Au risque de se noyer, il s'était jeté à l'eau, avait traversé une portion de l'armée du tsar et, comme nous l'avons dit, était arrivé au camp. En ce moment, l'armée moscovite, approvisionnée par son généreux adversaire, commençait à opérer sa retraite. Charles, furieux, avait tout vu, tout appris. Il s'élança dans la tente du grand vizir en lui reprochant le traité qu'il venait de conclure. Alors, avec la tranquillité musulmane, « J'ai, lui répondit le vizir, le droit de faire la paix et la guerre. Mais, reprit le roi, n'avais-tu pas toute l'armée moscovite en ton pouvoir ?»« Notre loi, dit gravement le musulman, nous ordonne de donner la paix à nos ennemis quand ils implorent notre miséricorde. Tortondel de faire un mauvais traité quand tu peux en faire un bon ?» s'écria Charles XII. Il ne tenait qu'à toi d'amener le tsar à Constantinople, et traître que tu es, tu le laisses échapper. Et, répondit froidement le Turc, qui gouvernerait son royaume en son absence, il ne faut pas non plus que tous les rois soient hors de chez eux. À cette riposte, Charles XII, furieux, se jeta sur un sofa, et comme le grand vizir passait devant lui, il étendit la jambe et lui déchira sa robe avec son éperon. Puis se redressant, il s'élança sur son cheval et retourna tout d'une traite à Bender, le désespoir dans le cœur. Charles XII rentra en Suède, mais ne se releva jamais de Poltava. On sait qu'il fut tué devant Frédéric Schall au moment où il se baissait lui-même pour pointer un canon. Un de ses officiers, peut-être celui qu'il avait menacé de conduire si loin de sa femme qu'il serait 3 ans sans en recevoir des nouvelles, lui brisa le crâne d'un coup de pistolet. On peut aujourd'hui voir la tête des deux rivaux, Charles et Pierre. Elles furent moulées toutes deux. La tête de Pierre est celle d'un homme de génie. Elle ressemble à la tête de Napoléon. La tête de Charles XII est celle d'un idiot. Elle ressemble à la tête de Henri III. La faiblesse politique dans laquelle sont tombées la Suède et son roi donne un répit au tsar. Tout est à peu près calme en Russie. Les Strelitz sont exterminés. Charles XII est vaincu. Les Turcs tiennent le traité de Falchi. Le clergé ne conspire que sourdement. Saint-Pétersbourg grandit. Le golfe de Finlande, Arkhangelsk et la mer Caspienne se couvrent de vaisseaux. Pierre peut quitter la Russie et aller demander à l'Europe cette somme d'art et de connaissances que son doux soleil a fait éclore entre son premier voyage et le second. Cette fois, il emmène avec lui la tsarine. Il parcourt avec celle qu'il appelle son bon génie l'Allemagne et la Hollande. Il veut lui faire voir la France, mais des formalités d'étiquette s'opposent à son voyage. La tsarine n'est point publiquement reconnue. La cour de Louis XV ne la traiterait point en tête couronnée. On sait par cœur les détails du voyage de Pierre Ier en France, son entrevue avec le petit roi Louis XV et avec Madame de Maintenon, sa visite au tombeau de Richelieu, et ce cri le plus grand des éloges funèbres qui ait jamais été prononcé sur le sépulcre d'un ministre, « Grand homme, je t'eusse donné la moitié de mes états pour apprendre de toi à gouverner l'autre. » Toujours d'accord avec lui-même, il a refusé le palais qu'on lui a préparé, repoussé les hommages qu'on a voulu lui rendre, dédaigné le luxe dont on a voulu l'entourer. Il s'est réfugié dans une petite maison en disant « Je suis un soldat. Un morceau de pain et un pot de bière me suffisent. Je préfère aux grands appartements les petites chambres. Je ne veux point marcher en pompe ni fatiguer tant de monde. » Puis, prophète du grand désastre qui s'accomplira 60 ans plus tard, il quitte Versailles en disant « Je pleure sur la France et sur son petit roi, que je vois près de perdre son royaume par le luxe et les superfluités. » En traversant cette France qu'il quitte en lui jetant la sombre prophétie, il s'arrête à chaque occasion qu'il trouve de s'arrêter. C'est un laboureur qui conduit sa charrue et qui l'interroge lui-même sur l'agriculture, tout en prenant le dessin de son instrument. C'est un curé qui lui explique comment il vit du petit champ qu'il possède et que, comme le vendangeur de la Bible, il cultive de sa propre main. « Faites-moi souvenir en Russie de ce brave homme, » dit-il à ceux qui l'entourent. « Son travail lui produit du cidre, du vin et de l'argent par-dessus tout. J'essaierai d'exciter nos popes par son exemple, et en leur apprenant à cultiver la terre, je les tirerai peut-être de leur misère et de leur oisiveté. » Mais une nouvelle non moins terrible que celle qu'il a arrêtée dans son premier voyage l'atteint pendant le second. La première fois, c'était les Strelitz et la princesse Sophie qui conspiraient contre lui. La seconde fois, c'est son fils, le tsarévitch Alexis, et sa femme Eudoxie Fedorovna Lapoukine. Nous avons parlé de la séparation du tsar d'avec sa première femme et de l'incarcération de cette princesse, sans dire les causes qui avaient amené ce divorce et cette captivité. Réparons l'omission commise. La tsarine était belle et devait sa fortune à cette beauté. Beauté fatale, fortune mortelle. C'était un usage reçu en Russie, lorsque le tsar était arrivé à l'âge de nubilité, de réunir dans la grande salle du Kremlin les plus belles filles de l'Empire. Les plus grands seigneurs de la Russie tenaient à honneur de faire participer leur famille au concours matrimonial. La même cérémonie fut pratiquée pour Pierre que pour ses prédécesseurs. Il passa dans les rangs des vierges moscovites et s'arrêta devant un miracle de beauté. C'était Eudoxie Fedorovna Lapoukine. Il en avait eu deux fils, l'un nommé Alexandre, mort en bas âge, l'autre nommé Alexis. C'était ce dernier qui se révoltait contre lui. La bonne intelligence entre les deux époux ne fut pas longue. La tsarine était intrigante, impérieuse et jalouse. Le tsar était soupçonneux, changeant et de complexion amoureuse. Il rencontra une jeune fille nommée Anna Moens, née à Moscou de parents allemands. C'était la fille d'un brasseur de bière. La voir, l'aimer, la désirer, fut tout un pour le tsar. Si cette femme eût aimé le tsar, ou eût été ambitieuse, c'était elle qui devenait impératrice au lieu de Catherine. Tout en cédant au tsar, elle céda froidement. Elle avait pour lui une aversion étrange, qu'elle ne se donnait guère la peine de dissimuler. Mais l'impératrice ne fut pas moins blessée de cette infidélité, la première qui lui eut faite publiquement le tsar, et une nuit, elle lui refusa son lit. Pierre consulta les théologiens les plus renommés de l'Empire pour savoir d'eux s'il n'existait pas quelque cause de nullité dans son mariage. Ils répondirent que non. « Tant pis pour elle, » dit le tsar, et il l'envoya dans un couvent où il la força de prendre le voile. Nous avons vu ses amours avec Catherine et l'avènement au trône de celle-ci. Pendant ce temps, la tsarine Eudoxie n'était pas si bien voilée qu'elle ne pût se faire voir, pas si bien cloîtrée que l'on ne pût pénétrer jusqu'à elle. Un gentilhomme de la province de Rostov, nommé Glebov, la vit, en devint amoureux, et, aidé par son frère, qui en sa qualité d'archevêque avait entré dans le couvent, il pénétra jusqu'à celle qui avait été répudiée par le tsar Pierre. Bientôt, l'intrigue amoureuse prit la consistance d'une intrigue politique. Il s'agissait de déposer et d'assassiner Pierre et de mettre à sa place le tsarévitch Alexis sur le trône. Le complot fut découvert. La tsarine, frappée de verges, fut enfermée à Schlüsselburg. Glebov fut empalé au milieu d'un échafaud dont les quatre coins étaient marqués par l'archevêque qui avait secondé les amours d'Eudoxie, par Abraham Lapoukine, son frère, et par deux autres boyards roués et décapités. Quand le feu, dit le tsar, rencontre de la paille, il la consume. Mais quand il rencontre le fer, il s'éteint. Puis, le soir, apprenant que Glebov, après 12 heures de cet horrible supplice, n'est pas encore mort, il prend un drojki et se fait conduire droit à l'échafaud. Arrivé là, il descend, fait quelques pas vers le patient, à qui la torture n'a pas pu arracher un seul aveu, et l'exhorte au moment où il va paraître devant Dieu à dire la vérité. « Approche, lui dit Glebov, et je vais la dire, mais à toi seul. » Pierre s'approche et Glebov lui crache au visage. « Insensé, lui dit-il, crois-tu que, n'ayant rien dit, quand tu ne promettais la vie en échange de mes aveux, je serais assez niais pour parler quand ta toute-puissance elle-même ne peut plus me sauver la vie ?» Et le tsar se retire vaincu et la rage dans le cœur. Reste son fils Alexis, le conspirateur éternel, le complice de sa mère, son fils que depuis longtemps déjà il ne regarde plus comme son héritier, puisque des bords du Prout, décidé à ne pas tomber aux mains de ses ennemis, il a écrit au Sénat « Après moi, donnez le trône au plus digne ». Il le fait comparaître devant le tribunal qui le condamne à mort le 6 juillet 1718. Le 7, la population s'émeut, des cris se font entendre en faveur du jeune prince, une députation se présente devant le tsar, venant humblement le supplier de faire grâce à son fils. « Eh bien, soit, dit Pierre, je lui fais grâce, qu'on aille annoncer aux prisonniers cette bonne nouvelle. » On se hâte, mais lui, pendant ce temps, fait venir son médecin. « Docteur, lui dit-il, vous savez combien le tsarévitch est nerveux. Cette grâce à laquelle il ne s'attend pas peut lui causer une émotion fatale. Allez à la prison et saignez-le abondamment. » Puis, comme le médecin est prêt à refermer la porte, « Aux quatre membres, » ajouta Pierre avec une voix dans laquelle perce toute sa haine pour ce malheureux prince, que les conseils maternels ont entraîné dans une lutte impie et sacrilège. 2 heures après, le tsarévitch était mort. Et, fils ou étranger, c'était ainsi que devaient tomber tous ceux qui osaient résister à cet homme à la taille et aux passions surhumaines. La nature sculpte les colosses en grand et par masse. Elle néglige les détails. Les détails sont pour les êtres infimes qu'elle destine à de moindres efforts et qu'elle fait naître dans les temps de calme, dans les jours de tranquillité. Mais est-ce la justice de tout le monde qu'il faut demander à cet homme que la terreur et le poison ont fait épileptique, qui 4 fois a été réveillé en sursaut par la révolte et qui, bondissant nu hors de son lit, a 3 fois lutté avec l'assassin nocturne et 3 fois l'a terrassé? Est-ce la patience du saint qu'il faut demander au charpentier sublime qui, après avoir à coups de hache taillé un empire colossal, après avoir sacrifié sa sueur, son sang, son bonheur, sa vie à ses empires, voit son fils s'approcher ténébreusement de son œuvre, une torche à la main? Où le fils devait vivre et l'œuvre tomber, où le fils devait tomber et l'œuvre vivre. L'œuvre a vécu. L'Empire russe, sorti encore informe des mains de Pierre le Grand, couvre aujourd'hui le tiers du globe et glorifie son fondateur en 30 langues différentes. Et Alexis, perdu dans un coin de l'église des Saint-Pierre et Paul, dort dans une tombe muette de 6 pieds de long. Mais soyez tranquille, Dieu est impitoyable aux hommes de génie. Ce cœur qui reste ferme comme celui de Brutus à la mort d'un fils se brisera sous l'infidélité d'une femme. Un jour, on vient lui dire que celle qu'il a tirée de l'esclavage pour en faire sa maîtresse, sa femme, la tsarine, que Catherine, la paysanne livonienne, couronnée, sacrée par lui, assise sur ce trône ensanglanté par tant d'exécutions terribles, et qui devrait au moins trembler si elle n'aime pas, a pour amant son favori à lui, le frère de cette ancienne maîtresse si froide à son amour, le chambellan Moens de la Croix. D'abord, il ne veut pas le croire, quoique la relation lui vienne d'un homme qui a toute sa confiance, de Jagavinsky, qu'on appelle l'œil de Pierre. Il faudra qu'il voie pour être convaincu. Il feint de quitter Saint-Pétersbourg et annonce une absence d'une ou deux semaines. À quelques lieues de la ville, il s'arrête, revient au palais et envoie un page faire ses compliments à l'impératrice comme s'il était à Kronstadt. Le page avait ordre de tout observer et de revenir dire ce qu'il avait vu ou même soupçonné. Le page revint et son rapport ne laissa plus de doute au tsar. Il était 2 heures après minuit, il alla droit à la chambre de Catherine. La sœur de Moïns de la Croix veillait dans une antichambre. La colère du tsar redoubla à sa vue. Tout ce qu'il aimait l'outrageait donc. Il la repoussa et passa. Un page, qui ne le reconnaissait sans doute pas, voulut défendre la porte de l'impératrice. Il le renversa d'un coup de poing. Il entra. Catherine, éperdue, sauta à bas du lit pour défendre son amant. Il faillit la tuer d'un coup de canne. Son regard fouilla les profondeurs de l'alcôve. Moïns de la Croix était dans le lit, attendant la mort, calme et résigné. Pierre sortit sans lui adresser une parole. Puis il entra dans la chambre du prince Repnine. « Lève-toi, lui dit-il, et écoute-moi. » Le prince se leva et étendit la main vers ses vêtements. « Tu n'as pas besoin de t'habiller, lui dit le tsar. » Et alors il lui raconte ce qui vient de se passer. Stupéfait de la confidence, le prince Repnine lui demande ce qu'il a résolu. « J'ai résolu, répond Pierre, de faire trancher la tête à l'impératrice dès qu'il fera jour. » Mais Repnine se jeta à ses genoux. « Et vos deux filles, dit-il, les princesses Anne et Élisabeth ?»« Eh bien, mes deux filles, songez que vous les déshonorez, sire. Songez que vous faites mettre en doute leur légitimité. » Pierre poussa un soupir. « Mais, dit-il, il me semble que j'en suis bien maître. » « Oh, lui répartit Repnine, faites ce que vous voudrez. » Le tsar rentra chez lui sans dire autre chose. Le lendemain, Moïns de la Croix était arrêté sur l'accusation de complot contre l'État. Sa sœur était arrêtée comme sa complice. Le procès s'instruisit. Pendant l'instruction de ce procès, le tsar avait des mouvements de colère qui touchaient à la folie. Un soir qu'il revenait de la forteresse où le procès s'instruisait, il entra inopinément et sans suite dans la chambre où les deux jeunes princesses travaillaient à des ouvrages de femmes. Il était menaçant, hors de lui, pâle comme un mort. Son visage et tout son corps frissonnaient sous des mouvements convulsifs. Ses yeux étaient étincelants et hagards. Il se promena pendant quelques minutes dans la chambre sans dire une parole. Seulement ses yeux s'arrêtaient, terribles, menaçants, vengeurs, sur les deux jeunes princesses. Toutes deux, tremblantes de terreur, quittèrent la chambre. Une jeune française, leur institutrice, se glissa sous une table et y resta immobile, muette, retenant son souffle. Alors elle vit le tsar tirer du fourreau et y repousser 10 fois la lame de son couteau de chasse, frappant du pied, heurtant du poing et jetant à terre son chapeau, mettant en pièces tout ce qu'il trouvait sous sa main, et enfin sortant de la chambre, en poussant la porte avec tant de violence qu'il la brisa. Moïns de la Croix fut condamné à mort. Sa sœur, au Knut, supplice que le tsar, dit-on, lui infligea lui-même. Après quoi, il l'envoya en Sibérie. Le 27 novembre 1724, Moïns de la Croix, après avoir avoué tout ce que voulait Pierre, après s'être reconnu coupable de concussion, de trahison, de conspiration, eut la tête tranchée. Il marcha au supplice comme un martyr. Il portait toujours au poignet le petit bracelet de diamants que lui avait donné l'impératrice. Lorsqu'il fut arrêté, il le cacha sous sa jarretière et parvint ainsi à le sauver. Sur l'échafaud, il le glissa au pasteur luthérien qui l'accompagnait, en le priant de le remettre à l'impératrice. D'une des fenêtres du Sénat, Pierre vit le supplice. Moïns mort, le tsar monta sur l'échafaud, prit la tête par les cheveux et le souffleta. Puis, rentrant au palais et s'adressant à Catherine, « Montez en voiture avec moi, madame, lui dit-il. J'ai une promenade à vous faire faire. » Quoique se doutant de quelque horrible projet, Catherine n'osa refuser, elle obéit. Alors, en voiture découverte, il la conduisit sur la place où l'échafaud sanglant était encore dressé, où la tête séparée du corps venait d'être plantée sur un pieu, dirigeant la promenade de manière que les plis de la robe de l'impératrice frôlassent l'échafaud et que quelques gouttes de la pluie de sang qui tombait de cette tête nouvellement tranchée tombassent sur la robe de l'épouse adultère. Catherine ne sourcilla point. Son visage de marbre ne trahit pas la moindre émotion. À partir de ce moment, toute relation cessa entre les deux époux, et Pierre ne vit plus sa femme qu'en public. Il jeta au feu le testament qu'il avait fait en sa faveur, et laissa soupçonner qu'après avoir envoyé sa première femme dans un couvent, il pourrait bien y envoyer la seconde. Car, au contraire des autres souverains, qui ont deux existences, la vie publique et la vie privée, le colosse dont nous esquissons les traits principaux n'eut jamais qu'une vie publique. Soit insouciance, soit mépris, défauts et qualités, vices et vertus, il exposa tout au grand jour. Son intérieur fut celui de son immense empire. Sœur usurpatrice, maîtresse infâme, fille bâtarde, épouse adultère, fils sacrilège, il met tout non seulement en vue mais en relief. C'était un droit de son génie, il en usa. Vivant pour le bien public, il vivait publiquement. Écoutez, il ne cachera pas plus la maladie dont il meurt qu'il n'a caché le reste, quoique cette maladie soit d'habitude de celle que l'on n'avoue pas. Il dit non seulement tout haut la maladie qu'il a, mais la source où il l'a prise. « Défiez-vous de madame la générale, s'écrie-t-il parfois en grinçant des dents au milieu d'atroces douleurs. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à mes amis. » Il est vrai que de son côté, la dame, sans nier la chose, lui renvoyait le compliment. « Mais pourquoi ne le guérissez-vous pas ? Demandait-on au docteur anglais Atkins. « Comment ? Répondait celui-ci. « Voulez-vous que je guérisse un homme qui a dans le corps une légion de démons de luxure ?» Puis au milieu de tout cela, la douleur morale fut bien pour quelque chose. Le cœur joyeux eût soutenu le corps. Le cœur brisé le tua. Lui qui avait vu, sans sourciller, les complots de sa sœur, les révoltes et les massacres des Strelitz, les adultères de sa première femme, les intrigues de son fils, lui qui avait puni tout cela promptement, terriblement, puis qui avait détourné les yeux du patient et du supplice, et qui avait paru ne plus songer ni à l'un ni à l'autre, il ne peut supporter l'ingratitude de cette servante livonienne qu'il a faite successivement sa concubine, sa maîtresse cachée, sa maîtresse publique, son épouse secrète, sa femme déclarée, et pour laquelle, en mémoire de cette grande et terrible journée du 3 août, il a créé l'ordre de Sainte-Catherine. Étrange délicatesse de la part d'un homme qui a pardonné à Villebois son viol et qui peut-être même a autorisé Catherine à tout donner au grand vizir. C'est qu'avec le grand vizir et Villebois, le corps seul était en jeu, mais qu'à Moëns de la Croix, Catherine a donné non seulement le corps mais le cœur. Et à quel moment ? 4 mois après qu'il l'a reconnue tsarine et héritière du trône, qu'il lui a donné la couronne et l'a fait couronner, événement inouï en Russie où jamais femme n'a été sacrée. Catherine, on le voit, n'a pas perdu de temps pour être ingrate. Celle dont il disait non seulement c'est une épouse, mais encore c'est un ami, non seulement c'est une femme au lit, mais encore c'est un homme au conseil. La reconnaissance de Catherine était de celle auquel il faut de l'espoir. Dès qu'elle n'eut plus rien à attendre, elle crut n'avoir plus rien à donner. Si fait, la mort du tsar pouvait l'élever d'un degré. Si haut que fût son trône, son tombeau était plus haut encore. Tout cela fit qu'à son crime réel, l'histoire ou plutôt la légende ajoute un crime supposé. Pierre meurt, et l'on accuse de sa mort Catherine et Menchikov. ceux pour lesquels il a fait le plus au monde après la Russie et avant ses enfants. On oublie les aveux indiscrets de Pierre, une infirmité bien connue pour laquelle il vient de prendre les eaux d'Olonets. On oublie le poids que cet atlas a porté pendant 30 ans et qui a dû finir par le courber vers la tombe. On oublie l'entassement des faits, les excès nocturnes, les colères épileptiques, les orgies sans fin, les veilles obstinées. On oublie qu'Alexandre fut fatigué d'avoir dompté Bucéphale et que Pierre pouvait bien être fatigué d'avoir dompté une nation. Mais c'est une injustice divine que celui qui n'a pas été puni d'un crime réel emporte avec lui dans la tombe l'accusation d'un crime supposé. Puis la foule est ainsi faite, il est difficile de s'élever au-dessus d'elle. Mais lorsque pendant 20 ans elle a regardé un homme en relevant la tête, lorsqu'elle a fait de cet homme un demi-dieu, elle ne veut plus permettre que cet homme meure comme les autres hommes. Le bruit se répand dans le monde que Napoléon est mort d'un cancer à Sainte-Hélène. « Cancer politique, répond le monde. » Et l'Angleterre, qui a déjà brûlé Jeanne d'Arc et décapité Marie Stuart, reste faussement accusée d'avoir empoisonné Napoléon. N'importe, disons comment mourut Pierre le Grand. Pour nous, sa mort est si bien d'accord avec sa vie qu'elle en est le simple couronnement. Il n'avait que 52 ans, mais il luttait depuis 40. La lame si souvent tirée pour le combat avait fini par user le fourreau. Dès 1722, il est attaqué de la dysurie, mais il souffre et se tait. Il a 3 provinces de la Perse à conquérir avant d'avoir le droit de se plaindre. Lui qui avoue tout, même les maladies honteuses, n'avoue plus une maladie du moment qu'elle peut être mortelle. Sans doute il faudra qu'il meure un jour, mais il ne faut pas que l'on sache qu'il peut mourir. C'est un de ses serviteurs qui est malade, et qui consulte pour lui. Lui suivra la consultation donnée à ce serviteur. C'est sur ces entrefaites, à son retour des eaux d'Olonets et après le couronnement de Catherine, qu'arrive la catastrophe de Moëns de la Croix. Saint-Pétersbourg voit la vengeance, mais tout à coup la Russie apprend que la vie du tsar est en danger et qu'une opération terrible peut seule le sauver. Puis on apprend que cette opération, il l'a soufferte, mais avec de telles douleurs que les opérateurs sont sortis tout meurtris de la pression de ses mains qu'il a refusé de se laisser lier. 3 mois, anéanti, brisé, agonisant, il reste étendu sur son lit de douleur. Mais enfin sa volonté l'emporte, et comme un captif qui brise sa chaîne, comme un prisonnier qui sort de sa prison, il s'élance pâle et courbé hors de la maladie, mais non hors du mal. Où va-t-il en ce temps d'automne qui commence et qui, à Saint-Pétersbourg, est fatal même aux plus saines, aux plus vigoureuses organisations? Dans les marais où s'égare le canal qui doit joindre les eaux de l'Asie aux eaux de l'Europe. À l'aspect de ce fantôme, affaibli, souffrant, voûté, Munich, ce grand homme dont nous aurons à parler plus tard, s'effraie et veut le tirer de cette bourbeuse et fétide contrée, royaume implacable de la fièvre. Mais lui, ce canal, dit-il, nourrira Saint-Pétersbourg et Kronstadt, fournira des matériaux pour leur construction, y amènera toutes les productions de l'Empire et fera prospérer le commerce de la Russie avec le reste du monde. Ma place est ici. La direction du canal bien arrêtée, il part pour le lac Ilmen. C'est toujours de l'eau qu'il lui faut à cet homme, qui aux 2 extrémités de son empire a attaché 2 mers, la Baltique et la Caspienne, la mer de glace et la mer de feu. Puis, des salines de Staraïa Roussa, il revient vers Pétersbourg, pousse sans s'arrêter jusqu'en Finlande et le 5 novembre, en plein hiver, il aborde dans le lac de l'Achta, au milieu d'un orage affreux. Mais il est sauvé, une cabane lui offre un abri. Un poêle sa chaleur. Il jette, avant de rentrer, un dernier regard sur cette mer qu'il semble avoir soumise, comme les steppes, comme les cosaques, comme les turcs, comme les suédois, comme le Danemark, et sourit à son triomphe. Mais que voit-il ? Une chaloupe est jouée dans un bas-fond, une chaloupe pleine de soldats et de matelots. La terreur les trouble, ils vont périr. Et d'abord, Pierre court au rivage et leur crie les manœuvres qu'ils doivent exécuter. Mais sa voix se perd dans le bruit des vagues et dans les clameurs des naufragés. Pierre ordonne de les secourir. Ceux auxquels il s'adresse hésitent. Alors, oubliant qu'il court un double danger, il se jette dans une barque. Mais ne pouvant point manœuvrer la barque, il se jette à l'eau, gagne à la nage la chaloupe en perdition, prend place au milieu de ses hommes éperdus, s'empare de la manœuvre et les ramène sains et saufs au rivage. De combien de coudées Pierre à l'achat dépasse-t-il Louis XIV sur les bords du Rhin ? Il est vrai que le soir même la fièvre le prend, que la dysurie lui enfonce ses serres au plus profond des entrailles et qu'on le rapporte mourant à Saint-Pétersbourg. Cette fois, il est bien couché sur son lit d'agonie et ne s'en relèvera plus. Mais de ce lit, il peut encore donner ses instructions, ses commandements, ses ordres. C'est Béring qui part comme la Pérouse, mais qui, plus heureux que la Pérouse, étendra jusqu'à l'Amérique l'Empire russe et donnera son nom à l'île qui lui servira de tombeau. C'est Munich, aux ordres duquel il met pour l'achèvement de son canal 20 000 ouvriers et le Sénat. C'est Catherine, à laquelle il recommande son Académie des sciences, et à qui il désigne Ostermann en lui disant « La Russie ne peut se passer de lui, il est le seul qui connaisse ses véritables intérêts. » Cependant, il se lèvera une fois encore, le 17 janvier 1725, jour de la bénédiction de l'eau. Il bravera l'âpreté des climats, les tortures du mal. Lui qui a tué la superstition sera pieux jusqu'au bout. Mais le 18, il tombera plus bas qu'il n'a jamais été. Cette fois-ci, ce n'est plus son lit d'agonie, c'est son lit de mort. Le 19, tous les médecins de Saint-Pétersbourg sont appelés autour du mourant. On expédie des courriers à Leyde et à Berlin pour en rapporter des consultations. Là, pendant 10 jours, par les remèdes les plus violents, par des remèdes plus terribles que la maladie, et qui arrachent aux patients des cris que celle-ci ne lui arrachait pas, la science, encore au berceau, brutale et maladroite comme un enfant, lutte contre le spectre qu'elle ne peut chasser de la chambre, tandis que de temps en temps le malade, indigné de sa faiblesse, honteux de lui-même, vaincu pour la première fois par la douleur, s'écrie « Oh, que l'homme en moi n'est qu'un misérable animal !» Enfin, le 26 janvier, il s'avoue vaincu, se résigne, cesse de lutter et se tourne vers le ciel. Il fait payer ses dettes, relâche les prisonniers et reçoit les derniers secours de la religion en disant « Dieu, je l'espère, jettera sur moi un regard de clémence en faveur du bien que j'ai fait à mon pays. » Le 27, il veut écrire ses dernières volontés. Il s'est senti plus calme, mais ce calme, c'est un coin du linceul que la mort étend déjà sur lui. On le soulève avec peine, on lui met une plume entre les doigts, il fait un effort et parvient à écrire ces trois mots « Rendez tout à... » Mais alors, la plume échappe de sa main, et il retombe sur son oreiller en murmurant « Anne, que l'on appelle ma fille Anne !» Celle que réclame le dernier cri de son père expirant accourt. Mais il est trop tard, comme la main s'est paralysée, la voix s'est éteinte. L'esprit vit encore, l'œil parle toujours, mais l'âme qui s'obstine à rester dans ce corps n'a plus d'intermédiaire avec le monde. Pendant 15 heures encore, ce qui reste de vie dans ce cœur si vivace lutte contre la mort. Enfin, le 28 juillet 1725, vers 4 heures du matin, à l'heure où ses yeux avaient l'habitude de s'ouvrir, ses yeux se ferment pour toujours. Mais les grandes existences ne meurent pas avec l'homme qu'elles ont animé. Elles se transmettent aux générations suivantes, elles s'infiltrent dans les âges à venir. Un siècle et demi est presque écoulé depuis la mort de Pierre, et la Russie vit encore de la vie de son puissant empereur. Et, en effet, son souvenir est vivant partout. Aller de la mer Baltique à la mer Caspienne, d'Arkhangelsk à Riga, de la Volga au Danube, d'Azov au golfe de Botnie, et je vous défie de poser le pied à une place où il n'est pas posé le sien. Contre l'habitude des nations, son peuple lui a été reconnaissant du bien qu'il lui a fait, à Moscou comme à Saint-Pétersbourg, dans les villes comme dans les villages, dans les chantiers comme sur les champs de bataille. On a recueilli avec un soin pieux tous les souvenirs, toutes les traditions, toutes les légendes qui se rattachent à sa personne. Ces souvenirs, ces traditions, ces légendes, nous les relèverons nous-mêmes avec le respect que nous inspire l'homme de génie, que cet homme se nomme César ou Charlemagne, Saint-Louis ou Pierre le Grand, Gustave Adolphe ou Napoléon. Et maintenant que nous avons fait le tour du colosse, entrons hardiment dans son empire.